journal vous est présenté par Rosalie Lafarge.
Bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon au tribunal. Le procès du numéro 1 des Insoumis s'ouvre ce matin, un an après les incidents en marge des perquisitions au siège du parti. L'engagement syndical a un risque professionnel significatif. Bilan d'un rapport qui se penche pour la première fois sur cette thématique. Les détails dans un instant. Nous irons à Rome également dans ce journal. Après des mois de brouille franco-italienne, Rome et Paris affichent leur unité, au moins sur la question migratoire. Il dénonce un procès politique. Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches sont attendus au tribunal de Bobigny ce matin. Ils vont devoir répondre de rébellion et provocation après la perquisition animée au siège de la France Insoumise il y a un an. Mais le chef de file des Insoumis est serein, selon son avocat maître Mathieu Davy.
Il est déterminé à s'expliquer, à faire valoir ses droits, à expliquer pourquoi il a été provoqué et mis dans ces situations assez exceptionnelles. De ne pas pouvoir assister à sa propre perquisition et pouvoir démonter toutes les erreurs, toutes les fautes qui ont été commises dans le cadre de cette perquisition injuste, injustifiée et illégale. Cette perquisition est vérolée d'erreurs, d'irrégularités, de dysfonctionnements qui font qu'elle est naturellement nulle en droit et qu'elle ne tient pas du fait des erreurs qui ont été commises par le parquet et par les forces de l'ordre ce jour-là.
Le procès doit durer deux jours. Il a 62 ans, 40 ans de carrière à la SNCF. Jean-Pierre Farandou s'apprête à en devenir le patron. Ce proche de Guillaume Pépi vient d'être choisi par Emmanuel Macron pour prendre la relève. Son portrait dans le journal de 7 heures. Des agents d'EDF s'élèvent contre Hercule. C'est le nom du projet de réorganisation de l'entreprise. Le gouvernement demande au patron Jean-Bernard Lévy de lui rendre sa copie d'ici la fin de l'année. Mais le plan qui se dessine ne plaît pas aux représentants du personnel et l'intersyndicale annonce une journée de grève aujourd'hui, Annabelle Grelier.
C'est assez rare pour le souligner, mais l'intersyndicale d'EDF ne s'est jamais rompue depuis 2016, depuis sa lutte contre la privatisation des barrages hydrauliques. Cette fois, c'est le projet Hercule qui déclenche la colère. Un projet de réorganisation du groupe EDF en deux entités, une qui s'appellerait EDF Bleu et qui regrouperait tout le nucléaire, les centrales et les barrages, et ce qui reste de RTE, le transport d'électricité, une autre dénommée EDF Vert, qui regroupe Enedis, les réseaux de distribution, les activités commerciales, les services à l'énergie d'Alkia et les énergies renouvelables, éolien et solaire. Une casse pure et simple du service public de l'électricité pour les syndicats qui n'y voient qu'un grand mécano financier. Car si EDF Bleu, qui essentiellement sera producteur d'énergie nucléaire, reste détenu à 100% par l'État, EDF Vert, lui, sera ouvert à des capitaux extérieurs à hauteur de 35%. Autant dire que l'on privatise les gains et nationalise les pertes, avertissent les syndicats. Il s'agit de financer la transition écologique, affirme l'exécutif, et le ministre de l'économie Bruno Le Maire d'assurer que rien n'est encore décidé. En charge du projet Hercule, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, doit présenter sa copie à la fin de l'année. Les syndicats, eux, demandent son retrait et appellent à la plus grande mobilisation.
L'engagement syndical, justement, il représente un risque professionnel significatif. C'est ce qu'établit le baromètre de la perception des discriminations publié ce matin, chapeauté par le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail. Et même si les dossiers qui atterrissent devant la justice sont encore peu nombreux, le phénomène est important, Catherine Pétillon.
Il aura fallu 3 ans de procédure, mais les prud'hommes viennent de le reconnaître. Jean-Marc Cellier a été discriminé en raison de son engagement syndical. Dès que ce salarié d'un organisme de formation professionnelle se syndique à Sud Solidaire, les choses se compliquent pour lui au travail.
J'étais exclu des augmentations individuelles, de certaines réunions. En fait, c'est un faisceau d'indices. C'est pas forcément quelque chose de très marquant, brutalement, d'identifiable à un moment donné. Mais c'est quand on se met à regarder un peu en arrière, sur une certaine durée, et qu'on est prêt aussi à y réfléchir pour se dire « mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ?»
C'est quand il est nommé secrétaire général de son syndicat que la situation s'aggrave. Jean-Marc Cellier décide alors de regarder avec attention son évolution professionnelle.
J'ai vu qu'à partir de l'année de ma dernière augmentation individuelle qui remontait à 2004 jusqu'à 2016, le moment où j'ai décidé d'entreprendre une action prud'homale, j'avais été toujours rémunéré en dessous de la moyenne des rémunérations de mes classes d'emploi, alors que par ailleurs, j'avais une ancienneté largement supérieure à l'ancienneté moyenne dans l'entreprise.
Pour obtenir réparation, la démarche est longue et parfois difficile.
Ça suppose d'avoir fait un chemin psychologiquement, quoi. Parce que c'est jamais non plus agréable quand on a fait sa carrière dans une entreprise de se dire qu'elle vous a discriminé.
Rares sont ceux qui, comme lui, vont jusqu'au bout. Selon le baromètre des discriminations, 4 personnes sur 10 qui s'estiment discriminées disent renoncer à faire valoir leurs droits, faute de pouvoir réunir les preuves.
Catherine Pétillon. Et revoilà le débat sur la taxe carbone. Un organisme rattaché à la Cour des comptes préconise de relancer cette fiscalité écologique, l'un des détonateurs de la crise des gilets jaunes. Gelée cette année pour répondre justement à la colère, elle doit le rester l'an prochain, mais après. Pas facile d'avoir une réponse au sein de la majorité qui maîtrise ici l'art du « en même temps ». Le député Jean-Charles Colarrois, référent national transition écologique à La République En Marche.
Philosophiquement, taxer les activités les plus polluantes, ça peut être un levier, et la fiscalité en France est un levier très fort pour faire bouger les comportements. En revanche, politiquement, on a vu que l'an dernier, nous avons décidé de stopper cette taxe parce qu'il y avait aussi une demande du pays, les gilets jaunes en premier, mais aussi un grand nombre de la population, qui demandait à ce qu'on fasse une pause et qu'on réfléchisse à une meilleure capacité d'acceptation liée à l'augmentation des taxes sur l'énergie. Toute nouvelle taxe est compliquée, parce qu'en France on a déjà un niveau de taxe, mais je rappelle aussi que le gouvernement réduit massivement les impôts. On réduit l'impôt sur le revenu, on supprime la taxe d'habitation, on diminue les charges sur les salaires. Donc qu'on puisse baisser des taxes sur le travail et en même temps augmenter des taxes sur les activités polluantes, ça semble logique.
Le député LREM Jean-Charles Colarrois. Emmanuel Macron à table avec Giuseppe Conte. C'est la première rencontre officielle entre la France et l'Italie depuis que le nouveau gouvernement est au pouvoir à Rome. Au menu des discussions de ce dîner, hier soir, la question migratoire. Bruce de Galzin, Rome et Paris se retrouvent sur une même ligne de fermeté.
Heureux Emmanuel Macron d'être à Rome pour célébrer les liens indestructibles entre les deux pays, comme l'avait dit le sage président italien Sergio Mattarella en pleine crise diplomatique. Le président français en a profité pour tacler l'anti-européen et ex-ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, ce dont ne s'est pas non plus privé le président du Conseil Giuseppe Conte.
Nous devons éviter la propagande lorsque nous parlons de l'immigration, la propagande anti-européenne. Nous devons continuer à proposer une réponse rigoureuse parce que l'Italie ne baissera pas la garde devant les trafics illégaux.
Ferme donc Giuseppe Conte comme Emmanuel Macron qui n'accepte pas que plusieurs ports voient débarquer les migrants, une demande de l'Italie qui s'est finalement rangée à la position française. Une position très claire également sur le droit d'asile. L'Europe ne peut pas accueillir n'importe qui.
C'est notre volonté commune d'avoir au niveau européen une plus grande harmonisation du droit d'asile, plus de coopération et une politique plus efficace de réadmission vers les pays d'origine lorsque les cas ne relèvent pas de l'asile.
Les migrants économiques seront donc renvoyés chez eux. Les demandeurs d'asile seront eux répartis automatiquement dans les pays qui jouent le jeu. Les autres pourraient être sanctionnés financièrement. Paris et Rome sont d'accord.
Bruce de Galzin, correspondant de France Culture à Rome. 8 ans après l'accident nucléaire de Fukushima, on l'apprend ce matin, les 3 anciens dirigeants de TEPCO, l'opérateur de la centrale, sont acquittés par le tribunal à Tokyo. Ils étaient accusés de négligence ayant entraîné la mort. Un avocat abattu en pleine rue à Amsterdam. C'est arrivé hier, une enquête est en cours, mais tous les soupçons se portent déjà sur le milieu du grand banditisme. Et cette affaire inquiète jusqu'au plus haut niveau de l'État, Antoine Moutot.
C'est dans une rue du sud d'Amsterdam, peu après 7h30 hier matin, que le corps de Dirk Wiersum a été retrouvé. Avant son assassinat, l'avocat de 44 ans défendait un témoin clé dans le procès des 2 criminels les plus recherchés du pays, Ridouane Taghi et Saïd Razouki. Ils sont accusés de trafic de drogue et d'avoir orchestré de nombreux règlements de comptes. L'an dernier, le frère du témoin clé avait lui aussi été assassiné. Toute la journée d'hier aux Pays-Bas, les réactions de stupéfaction et de colère ont défilé les unes après les autres, à commencer par celle du Premier ministre Mark Rutte, qui a qualifié la nouvelle de très préoccupante. « C'est une attaque contre l'état de droit », a déclaré de son côté le président de l'Ordre des avocats d'Amsterdam. En réaction, le ministère de la Justice a ordonné la mise en place d'une cellule spéciale sous le contrôle de l'Organisme national de lutte contre le terrorisme et qui aura pour tâche de renforcer la sécurité des avocats dans le pays. Il faut dire que le dossier est particulièrement brûlant pour les autorités. Les accusations de laxisme sont de plus en plus récurrentes. Depuis plus d'un an, un important syndicat de police dénonce le manque cruel de moyens et qualifie les Pays-Bas de narco-État.
France Culture aux Pays-Bas avec Antoine Moutot. Un attentat à la voiture piégée fait 10 morts ce matin en Afghanistan. C'est un immeuble des services de renseignement qui a été visé dans le sud du pays. Attaque revendiquée par les talibans. Le temps pour aujourd'hui avec encore des orages dans le sud. D'ailleurs, un soleil plus ou moins généreux est au rendez-vous. Au réveil, il fait entre 14 et 17 degrés sur la moitié nord, de 16 à 25 pour la moitié sud.